Vous êtes sur RTL.
Que des fast-food là,
oui.
Mais bien entendu dans les burgers de hipsters, là c'est vraiment la foire à la viande d'à côté de chez vous, au locavore et tout.
Bah d'ailleurs, on a souvent des vrais plaisirs gustatifs dans ces restaurants.
Et d'ailleurs, le burger du futur en France ou dans le monde, il va ressembler à quoi? Est-ce que si on suit le sens de l'histoire, il y aurait un burger végétal?
Il y a déjà, ça y est, le Burger King a lancé dans une quarantaine de restaurants autour de Saint-Louis, dans la région de Saint-Louis, des burgers avec une start-up californienne qui s'appelle Impossible Food, et ça s'appelle Impossible Burger, et c'est à base de végétaux. Non, c'est très bon.
C'est vraiment de légumes en fait.
C'est du soja, des pois, etc.
Et vous allez vouloir me faire manger des insectes, je sens.
Alors oui, parce que la prochaine étape, c'est qu'il faut bien prendre les protéines là où elles sont.
Qu'il faut manger moins de viande.
Donc il faut prendre la protéine animale qui soit pas vraiment très animale. Donc des bons petits verres de farine. Ça c'est bon, Thomas, c'est super. Et puis des criquets.
Ne parlez qu'à Thomas, oui. Et des criquets. Non mais ça c'est vraiment une piste sérieuse ou...
Ah non, c'est très sérieux, on en mange déjà. Moi, j'ai déjà eu en apéritif des criquets frits.
C'est très bon.
Mais ça existe, hein. J'ai l'entreprise Jiminy en France, qui est une petite start-up tout à fait chouette, qui fait des choses à base de verres de farine et de criquets.
Bon, on va pas mourir idiot, on va les goûter. Hein.
Oui, je vous laisse partir devant Thomas.
Aller hacher menu et en faire un steak de criquets.
Merci infiniment. Merci. Didier Pourcry. Je rappelle que vous publiez ce livre passionnant aux éditions Robert Laffont, une histoire de hamburger frites. À bientôt.
Au revoir.
Voilà, c'est la fin de cette première curiosité de l'été. Vous pouvez nous réécouter sur rtl.fr ou nous podcaster. Et on vous donne rendez-vous, ce sera comme ça tout l'été. Le soir aussi à 21h sur RTL. Alors on va vous démontrer que la Terre est ronde. Bah si, il y en a quelques-uns à qui il faut le démontrer. Vous verrez que ce n'est pas un frisbee.
Ah, c'est bien. Voilà. Et puis demain à 14h, ça vous chatouille? Ça vous gratouille?
Oui, aussi.
Le bruit des ongles qui crie sur un tableau noir vous hérisse le poil. On vous expliquera pourquoi notre cerveau a ses réactions. RTL, il est 14h30. Tout de suite, c'est un plaisir de retrouver Jean-Alphonse Richard et Confidentiel. Bonjour Jean-Alphonse.
Bonjour Jean-Alphonse.
RTL, Jean-Alphonse Richard.
Bonjour, c'est Jean-Alphonse Richard, ravi d'être avec vous en ce début d'après-midi sur RTL pour le meilleur de Confidentiel tout l'été. Du lundi au vendredi, 14h30, 15h30, je vous propose de prendre le large avec une personnalité, une célébrité, de passer en revue tous les rouages qui ont fait sa gloire, son succès, mais aussi les faiblesses, les désillusions, les pièges inévitables qui ont accompagné ce parcours. L'homme dont je vais vous raconter l'histoire fêtera dans 20 jours, le 26 juillet, c'est 77 ans. Il a pourtant gardé la silhouette, la vigueur, le sourire carnivore de ses jeunes années, comme si l'âge n'avait aucune prise sur lui. Malgré 60 ans de carrière et d'excès en tout genre, cette rockstar pourrait incarner le mythe de Faust, celui de l'éternelle jeunesse. Un chanteur dont on croit tout savoir mais qui n'a jamais dit qui il était vraiment, Mick Jagger, le patron des Stones, dans le meilleur de Confidentiel spécial été, c'est tout de suite sur RTL.
Jean-Alphonse Richard. Confidentiel Mick Jagger sur RTL.
Financially dissatisfied, sexually satisfied, philosophically strong.
Mick Jagger n'avait rien pour devenir l'ange sulfureux du rock'n'roll. Tout sauf un rebelle. Bon garçon, étudiant appliqué, jeune homme économe de ses émotions et de ses sentiments. Mick Jagger n'avait donc rien de sauvage, de révolté ou de diabolique, sauf peut-être sa bouche démesurée, qui à elle seule allait engloutir plus d'un demi-siècle d'histoire de la musique. Michael Philip Jagger, aussitôt prénommé Mick, est né dans la grande banlieue de Londres, à Dartford, une ville en plein déclin industriel qui aujourd'hui se présente comme le berceau des Stones et compte une Satisfaction Street. Un père, Joe, prof de gym, et une mère, Eva, qui rêve d'un destin rangé pour leur premier fils. Mick fera semblant de les écouter, leur mentira beaucoup, mais Joe et Eva porteront toujours sur lui le plus bienveillant des regards.
Radio Luxembourg, le grand poste international.
C'est curieusement grâce à RTL ou plutôt à son ancêtre, Radio Luxembourg, que Michael Philip Jagger est sans doute devenu Mick Jagger. En ce début des années 50, les musiques nouvelles sont américaines et Radio Luxembourg est l'une des seules stations à diffuser la nuit ces rythmes qui annoncent déjà le rock et la pop. L'oreille collée à un vieux poste radio, Mick Jagger passe ainsi ses premières nuits blanches. En attendant de ressembler à ses idoles invisibles, Mick s'entraîne le jour sur une guitare de pacotille, souvenir de vacances familiales en Espagne. À l'âge de 15 ans, le jeune garçon est assis dans un cinéma de Woolwich pour assister à un concert de Buddy Holly. Il en saisit tous les tics, fasciné. Le vent du rock vient de définitivement emporter Mick Jagger.
Vous savez, les rock'n'roll, c'est les choses très simples. C'est pas une chose compliquée. Il change pas beaucoup, la musique. Il change pour un an, deux ans. Et ça revient dans un seul.
Mais il a beau avoir des rêves de scène, Jagger n'a vraiment rien d'un aventurier. Il a connu la sévère discipline de l'école primaire, les humiliations, les coups de trique. Il a appris comme cela à devenir un garçon pragmatique et calculateur. Mick ne sait pas de quoi demain sera fait, alors il prépare assidûment son entrée dans une grande école, la London School of Economics. Il paye son inscription en travaillant comme aide-infirmier dans un sinistre hôpital psychiatrique de la région, le village sur la lande, comme on l'appelle. Le personnel le trouve serviable et sympathique. Une infirmière passionnée lui fera connaître ses premiers émois amoureux. À la London School, Mick Jagger se révèle brillant et obéissant. Joe et Eva peuvent être rassurés. Ils ont là un fils paisible qui rentre chaque soir chez papa-maman et qui ne fera pas d'histoire. Mais y aurait-il déjà chez cet adolescent du docteur Mick et du Mr. Jagger, étudiant discipliné le jour et rocker la nuit? Mick Jagger va passer sa vie à brouiller les pistes. Dans le business ou en amour, il sera double, tour à tour homme d'affaires et fêtard déjanté, romantique et cynique, le but étant toujours de s'en sortir sans perdre de plume. Mick Jagger a 18 ans. Il ne l'avoue pas, mais il s'ennuie ferme sur les bancs de la School of Economics. Il revoit par hasard un gars de Dartford qu'il avait croisé à la petite école. Il s'appelle Keith Richards et ils se sont connus au premier coup d'œil. Mike, avec sa bouche surdimensionnée, Keith et ses oreilles en chou-fleur. Ces deux-là se sont immédiatement retrouvés sur la même longueur d'onde. Cette attraction quasi magnétique ne cessera jamais. Avec Keith Richards, le petit groupe imaginé par Mick Jagger pour jouer des reprises de Chuck Berry gagne un nom, Little Boy Blue and the Blue Boys. Dans cette Angleterre des 60s, les groupes de blues, de rock, de bebop commencent à fourmiller. Pour se faire une place au soleil, il faut jouer des coups dans les clubs londoniens, comme au Marquis où ce 12 juillet 1962, en pantalon en velours côtelé et en tricot de marin, Mick Jagger, presque 19 ans, chante pour la première fois avec son groupe, rebaptisé pour l'occasion les Rolling Stones, ce qui ne plaît pas à Jagger qui déclare « J'espère qu'on ne va pas nous prendre pour un groupe de rock'n'roll ».
Conditions sur mabankpro.bnpparibas.
RTL. Confidentiel Mick Jagger sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Le vœu formé par Mick Jagger d'éviter la route du rock ne va évidemment pas se réaliser. les Stones resteront les Stones. Avec un autre musicien de rencontre reconverti en impresario, Brian Jones, le groupe essaie de se faire remarquer. Jagger et ses amis vivent tous dans un appartement de Chelsea, le 102 Edith Grove, vite transformé en dépotoir. La vie de bohème, les répétitions, les beuveries, les filles qui se succèdent, comme les jumelles Sandy et Sarah que personne ne parvient à distinguer. Si à cause de sa bouche de caoutchouc, Mick Jagger a longtemps fait l'objet de railleries, un physique insolite qu'on trouve disgracieux, les groupies se battent désormais pour coucher avec lui. Pourtant, question amour, il est encore fleur bleue. Cléopatra Sylvestre, 18 ans, une des rares chanteuses noires des clubs londoniens, lui brisera le cœur, mais il aura vite une autre fiancée attitrée, le mannequin Chrissy Shrimpton. Question santé, il fait attention de ne pas sombrer trop régulièrement dans l'alcool, évite de consommer ses pilules qui aident à garder la forme, énergisant et amphétamine. Question argent, lui seul possède un chéquier, avance le loyer du 102 Edith Grove. Mick Jagger s'installe déjà comme le gentil organisateur de la vie décadente des Rolling Stones. Il ne cessera de remplir cette mission. L'anonymat de Mick Jagger et des Rolling Stones ne dure pas. Les Beatles, pour qui l'Angleterre commence à s'évanouir, sont les premiers à remarquer un soir la bande à Jagger. Dans un club, le Crow Daddy, le nouveau repère des Rolling Stones, le courant passe entre les deux groupes. Les journaux essaieront toujours de les opposer. Les Stones seront concurrents, jamais adversaires.
Présenté par Jean-Alphonse Richard.
La naissance d'une étoile dans cette Angleterre du début des années 60. Comment Michael Philip Jagger va devenir Mick Jagger? Avec nous dans ce confidentiel Mick Jagger sur RTL, Philippe Manœuvre. Bonjour et immense plaisir de vous accueillir.
Bonjour.
Philippe Manœuvre, l'enfant du rock qu'on ne présente plus. Rock, c'est d'ailleurs le titre de votre autobiographie que vous venez de sortir aux éditions HarperCollins. Votre route a évidemment croisé celle du patron des Stones. A priori, on l'a raconté dans ce confidentiel, Mick Jagger n'est pas vraiment un rebelle au début. À quoi ressemble le petit Mick de cette bonne ville de Dartford?
C'est un américanophile, Mick Jagger. Voilà, c'est ça qui tranche quand les gens racontent un peu son enfance. Il veut du changement, la guerre est terminée, tout va bien, l'Angleterre se relève. Le papa de Mick Jagger est prof de gym, mais c'est un prof de gym très connu, parce que très vite, il va devenir le professeur de gymnastique à la BBC. Et il va faire donner des cours de gymnastique à la télévision. Et il emploie ses deux fils, Chris et Mick, pour être avec lui, faire les mouvements. Donc Mick Jagger est habitué du show business. C'est un enfant très ouvert, très joyeux. Et il passe quand même à la télévision dès qu'il a 12-13 ans. Donc ça lui donne une espèce d'aura par rapport à ses petits camarades.
Et il a déjà évidemment ce physique élastique qu'on va lui connaître. Vous parlez de son père, il y a sa mère aussi. Ses parents vont toujours être très importants pour lui.
Oui, les parents de Mick sont importants et dans les années 80, le papa de Mick Jagger va le rappeler à l'ordre fermement en lui disant « Arrête un peu les conneries, arrête un peu la drogue et l'alcool, tu n'as qu'un corps, souviens-t'en, c'est la seule chose que son père va lui transmettre. »
On en parlera bien sûr dans ce confidentiel de cette extraordinaire santé de Mick Jagger, les premiers pas dans la musique.
Il a envie de chanter et il a envie de chanter de la musique américaine. Il essaye d'enregistrer un morceau très populaire à l'époque, la Bamba. Ta-ta-ra-ra, la Bamba. Et ça, alors Mick Jagger en fait plein de versions avec les groupes de lycée, vous voyez. Mais personne ne pense carrière, les Beatles sont même pas sortis de disques à l'époque. On bricole avec des instruments acoustiques, un harmonica, deux guitares, et on essaye de jouer la Bamba, des trucs très très simples.
Alors il va y avoir un petit groupe avec, avec ses potes, évidemment.
Il va y avoir la rencontre avec son copain Keith Richard,
Qui est né au même endroit.
Voilà, hein, ils sont nés à Dartford, et ils se croisent à la gare. Mick Jagger, il a sous son bras trois disques. Un disque de Muddy Waters, Jimmy Reed, un disque de Chuck Berry, qui va tellement fasciner Keith Richard.
Et là va donc commencer les premiers concerts, les premières soirées. Juste un petit mot encore, pourquoi ce nom Rolling Stones? Ça sort d'où?
31 juillet, c'est à Cordiac, voir Renault.fr.
RTL, confidentiel,
Jean-Alphonse Richard.
Autant les Beatles portent l'uniforme convenable de la jeunesse britannique, coupe de cheveux proprette et costume sage, autant les Stones incarnent une décadence crasseuse. Les cheveux longs font scandale, synonyme de mœurs dissolues et de garçons sans foi ni loi. Mick Jagger, naturellement devenu porte-parole d'un groupe où il est le seul à s'exprimer correctement, joue les vierges effarouchées. Je ne saisis pas à quoi riment toutes ces histoires d'images. Que les parents nous détestent ou pas ne me préoccupe pas. Ils finiront par nous aimer un jour, répond-il dans une interview. Mick Jagger devient ainsi le chef de file d'un groupe à succès qui sent le soufre, le sexe et la sueur. Un premier journal titre, laisseriez-vous votre sœur sortir avec un Rolling Stone? Un deuxième lui répond, laisseriez-vous votre fille épouser un Rolling Stone?
Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you, hope you guessed my name.
Mick Jagger jubile. Mais il est bien trop lucide pour savoir que ce bouillonnement peut s'arrêter du jour au lendemain. Il faut surprendre. Puisque les Beatles écrivent leurs textes, pourquoi pas les Stones? Avec l'éternel complice Keith Richards, Jagger écrit une douzaine de mélodies. L'une des premières sera pour une Anglaise blonde et aristocratique, grandie dans les beaux quartiers.
It is the evening of the day. I sit and watch the children play.
Marianne Faithfull chante Mick Jagger. Ces paroles-là préfigurent une romance. Mais pour le moment, la jeune femme n'a aucune vue sur ce Mick qu'elle considère comme un vulgaire petit voyou. Il faudra attendre 2 ans pour qu'ils se retrouvent, un soir, après un concert des Stones, dans les vapeurs de marijuana. À l'époque, Marianne est séparée de son mari, Mick, sur le point de quitter sa fiancée, le mannequin Chrissy Shrimpton. La liaison va durer 6 ans, clandestine au début pour éviter les journalistes, puis aux yeux de tous, est tumultueuse.
All I hear is the sound of rain falling on the ground. I sit and watch as tears go
des plus emblématiques des 60s. Mais pour Marianne, la vie intime avec Jagger ressemble à un bateau ivre. Marianne racontera que Mick a été tout de suite infidèle. couchant avec toutes les jolies filles qui croisaient sa route et même, dira-t-elle, avec des hommes. Elle a alors le sentiment de côtoyer un fantôme avec qui elle ne peut pas communiquer. Un homme prisonnier de sa célébrité, de son image, de cet argent qui coule facilement. Marianne Faithfull est mal à l'aise dans ce décor. Face à Mick Jagger, le salut, croit-elle, est dans la fuite. Toxique, marijuana, LSD, cocaïne. Elle perd l'enfant de Mick qu'elle porte, une petite fille qui devait s'appeler Corinna. Fausse couche qui la plongera dans une infinie tristesse. Mick Jagger sera bouleversé par cet événement mais ne montrera en public aucune émotion, ne laissera couler aucune larme, comme s'il avait érigé depuis l'enfance un mur invisible autour de sa personne.
C'est d'un délai légal de rétractation.
Mick Jagger, l'inusable patron des Stones, la saga continue dans le meilleur de Confidentiel spécial été après les infos. RTL, il est 15h. Le point sur l'actualité avec vous, Olivier Bois.
Le chauffard qui a renversé et tué une jeune gendarme de 26 ans dans le Lot-et-Garonne samedi soir est toujours en garde à vue. Le procureur d'Agen a expliqué qu'il roulait entre 160 et 160 km par heure au moment de l'impact. Il n'avait pas le permis, il avait pris de la drogue et les gendarmes ont retrouvé dans la voiture 165 grammes de cocaïne. Il affirme avoir voulu fuir, avoir voulu éviter la herse qui lui barrait la route. Selon lui, il n'a pas vu la jeune militaire et n'avait pas l'intention de la percuter. C'est une information RTL de Guillaume Chiez à Bayonne. Après l'agression ultra-violente du chauffeur de bus, 5 personnes sont désormais en garde à vue. 3 d'entre elles sont soupçonnées d'avoir directement frappé à de nombreuses reprises le chauffeur qui leur demandait de sortir du bus parce qu'il n'avait ni ticket ni masque. Le chauffeur est en état de mort cérébrale, selon les médecins. Il y a des personnes qui ont la capacité de rendre le monde meilleur parce qu'elles savent créer de la beauté. Les mots très beaux et très justes de l'actrice italienne Monica Bellucci après la mort du compositeur Ennio Morricone, qui nous a quittés à l'âge de 91 ans. Il a signé plus de 500 musiques de films, Le Professionnel avec Belmondo, Mission avec Robert De Niro et bien sûr ses musiques de western dans les films de Sergio Leone. Celle-là qu'on entend, l'une des plus mythiques. Le bon, la brute et le truand. Ennio Morricone, donc, qui est mort, je vous le rappelle, à l'âge de 91 ans. On ne l'attend pas avant 17h maintenant, l'annonce du nouveau gouvernement. Comme souvent, les derniers arbitrages prennent un peu plus de temps que prévu. On sera en édition spéciale dans RTL Soir à partir de 18h avec Vincent Parizeau et toute l'équipe de RTL. Le procès se tiendra à huis clos, tant il est sensible. 2 ex-agents secrets français sont jugés devant la cour d'assises pour trahison. Ils risquent 15 ans de prison pour avoir livré des secrets à la Chine sur les pratiques des services français. On n'en sait pas beaucoup plus, si ce n'est qu'Emmanuel Macron lui-même avait qualifié l'affaire de très grave en 2018. L'un des agents aujourd'hui à la retraite avait été en poste en Chine. Il avait été rapatrié quand la DGSE avait appris qu'il avait une liaison avec une interprète chinoise de l'ambassade, une femme avec qui il s'est marié depuis. Et puis le Louvre à Paris a rouvert ses portes ce matin sous les applaudissements des visiteurs qui étaient là après 3 mois et demi de fermeture. Mona Lisa retrouve un peu le sourire, même si ce sera un été particulier, peut-être plus agréable d'ailleurs pour ceux qui arpenteront le musée. En temps normal, les 3/4 des visiteurs sont des touristes étrangers. Les courses étaient aujourd'hui au Sable d'Olonne. Il fallait jouer pour gagner l'As, le 7, le 6, le 14 et le 8. On termine avec la météo. Demain, il fera à nouveau un temps magnifique, du soleil partout, juste un peu voilé le matin des côtes de la Manche au nord. Les températures à 8h demain matin, il fera entre 16 degrés en Bretagne.
France, plus d'infos sur velux.fr.
Il est 15h03 sur RTL et on vous retrouve Jean-Alphonse Richard pour Confidentiel.
Jean-Alphonse Richard.
Confidentiel Mick Jagger sur RTL.
En ce milieu des années 60, Mick Jagger commence à porter un parfum vénéneux qui ne va plus le quitter. Enfant sauvage du rock, roi, adulé et riche. Pour la première fois, les Stones devancent les Beatles pour le titre de meilleur groupe britannique. Pour leur deuxième tournée aux États-Unis, à New York, ils doivent se retrancher dans les studios de CBS, pris d'assaut. À l'aéroport de Sydney, en Australie, leur arrivée tourna l'émeute. Une seule chanson va alors changer à jamais l'image de Jagger, le transformer soudain en apôtre du sexe débridé, le premier chanteur pornographique, comme vont protester les ligues de vertu.
Satisfaction crée le scandale. Mick Jagger y gagne au passage une réputation d'ange des ténèbres, silhouette lubrique et incandescente, jouant avec les codes d'une sexualité ambiguë. Le spectre de la drogue n'est jamais loin, même si Mick Jagger se tiendra bien souvent à distance de ses nouveaux paradis. Brian Jones, l'ami impresario, et Keith Richards, le premier des fidèles, se défoncent au LSD, à la cocaïne et au STP, un puissant hallucinogène. Mick Jagger se méfie instinctivement de ce genre de soirée. Il se soucie bien trop de sa santé pour se mettre en danger. Mais Mick Jagger a beau être prudent avec la drogue, la presse à scandale se roule dans la rumeur. Les tabloïds, la police et la justice, gardiens de l'ordre moral du royaume, sont bien décidés à lui faire la peau. Après une longue enquête sur une soirée de débauche dans un cottage du Surrey, Mick Jagger se trouve traîné avec Keith Richards devant un tribunal. Le palais de justice de Chichester, la ville entière, sont en état de siège. Mick Jagger, accusé de détention de substances illicites, se présente à la barre. Il porte une chemise à jabot et une cravate à rayures. Le procès sera celui du grand déballage des mœurs dissolues des musiciens. Drogue, orgies sexuelles, défilés de filles nues, les journaux se jettent sur les anecdotes les plus scabreuses. Marianne Faithfull, citée dans la procédure, sera présentée comme une vampe délurée, couchant avec 8 hommes à la fois. Un magazine la rebaptisera Marijuana Faithfull. La sanction aurait dû se résumer à une simple amende. Mais pour le juge, Jagger est un antéchrist moderne. 3 mois de détention pour lui, 1 an pour Keith Richards. Jagger, numéro d'écrou 7856, ne passera que peu de temps à la prison de Brixton. Tollé général, les 2 Stones seront relâchés en attendant l'appel. Que vous le vouliez ou non, dira le procureur à Jagger, vous êtes l'idole d'un grand nombre de jeunes, d'importantes responsabilités vous incombent. Mick Jagger sait qu'il est épié en permanence, de quoi le pousser à tout contrôler. Les nuits de défonce s'arrêtent toujours à temps et les maîtresses restent cachées. Comme la chanteuse Marsha Hunt, qui accouche sous X d'une fille, Carice. Jagger avait insisté pour qu'elle garde l'enfant, puis au 5e mois de grossesse avait fait marche arrière, délaissant Marsha, lui disant qu'il ne l'avait jamais aimée. Après la naissance, il lui enverra 200 livres avec ce mot « Je sais que je n'ai pas été correct avec toi ». Le secret sera bien gardé, Carice n'apprendra à connaître et à aimer son père fantôme que des années plus tard. Mick Jagger joue ainsi avec le feu, mais évite toujours que celui-ci ne le brûle. En cette année 1969, il passe tout près de la flamme. La mort rôde, celle de Brian Jones, l'impresario des débuts, détruit par la drogue et l'alcool et poussé vers la sortie. Le 5 juillet, on le retrouve mort dans sa piscine. Accident ou suicide, Jagger est accusé de l'avoir abandonné. La mort, encore, à la fin de l'année. Le concert géant imaginé par Mick Jagger à Altamont, en Californie, tourne au drame. 4 victimes, dont un jeune homme poignardé par un Hells Angel, dans la foule, sous ses yeux. Avec Altamont, la légende des Stones et de leur leader devient encore plus noire. Jagger est accusé d'incompétence, d'avidité financière et de cynisme. Un homme est mort sous vos yeux, en avez-vous quelque chose à foutre? Oui ou non, interpelle un animateur radio. Mick Jagger sortira glacé d'effroi de cette nuit californienne, mais comme d'habitude, il ne montrera rien, quitte à ce que son image soit écornée. La chance, insolente, aurait-elle tourné pour le patron des Stones?
Confidentiel Mick Jagger sur RTL.
Le succès n'aura donc pas tardé à se dessiner pour les Stones. Les années 60-70 seront les années Mick Jagger. On continue à parler de Jagger avec notre invité Philippe Manœuvre. Philippe Manœuvre, comment Mick Jagger s'impose-t-il comme finalement le leader naturel des Stones?
C'est vrai qu'au début, c'est Brian Jones qui est un peu le leader, parce qu'il a trouvé le nom du groupe, il a trouvé la musique qu'ils allaient jouer, ça sera du blues. Et il envoie des lettres à la BBC, enfin, il a un peu même l'attaché de presse, le manager, il fait tout ce Brian Jones. Et puis petit à petit, Mick Jagger va se mettre à composer avec Keith Richards. Et Brian Jones sera exclu de ses compositions, de ses séances de composition. Et Mick Jagger va se mettre à écrire. Et quand on écrit, souvent il y a des tubes qui arrivent, notamment le fameux Satisfaction à partir de 1965.
Ça, c'est un déclic. Hein.
Alors là, la chanson Satisfaction, c'est un raz-de-marée sur l'Europe. Tous les groupes de garage, tous les groupes de lycée se mettent à jouer Satisfaction. Le tin-tin-tin-tin-tin. Ça devient vraiment l'appel aux armes d'une génération. Puis petit à petit, il va se mettre à danser. Il voit James Brown, il voit Tina Turner, dont ils font la première partie. Donc ils se mettent... Ah ! Et c'est quand même un showman extraordinaire. Quand ils arrivent en Allemagne, il fait le pas de loi sur scène à Berlin pendant le break de Satisfaction. Il fait le pas de loi des nazis. La foule explose. C'est du punk avant l'heure. Enfin voilà, en France, il y a toujours des articles... Mick Jagger ou Johnny Hallyday? C'est ça un peu les deux grandes bêtes de scène, comme on disait.
On a bien sûr parlé de Marianne Faithfull dans ce confidentiel sur RTL. Alors, j'ai envie de dire, Philippe Manœuvre, les femmes et Mick Jagger, alors là, c'est une épopée.
Alors, c'est une épopée. Récemment, il y a le chanteur des Who, Roger Daltrey, qui a fait cette déclaration. Il a dit « Si chaque fois que Mick Jagger s'était fait violer par une femme, on m'avait donné 2 €, je serais milliardaire à l'heure actuelle. » Mick Jagger... C'était l'étalon du rock, quoi. C'était celui que toutes les filles courtisaient, dont toutes les groupies rêvaient. Et les aventures ont été nombreuses, innombrables, bien sûr. Bon, alors, il a déçu Marianne Faithfull, qui était sa petite amie régulière, qui l'attendait à Londres. Et malheureusement, il y a eu de nombreux coups de canif dans le contrat. Puis c'était les années 60, c'était les années insouciantes. On parlait de l'été de l'amour en 1967. Donc clairement, Mick Jagger... Il était avec sa grosse bouche, ses grosses lèvres lipues, là. Il était un peu un symbole sexuel évident, quoi.
Un petit mot sur les Beatles. C'est « Je t'aime moi non plus » ou « Je t'aime tout court » avec les Beatles?
Un jour, le premier manager des Rolling Stones, Andrew Oldham, m'a dit « En fait, mon seul coup de génie, c'est d'avoir dit que les Stones étaient les rivaux des Beatles. » Mick Jagger n'est pas idiot. Il savait qu'il était un peu en rivalité, mais enfin... Au départ des Rolling Stones, les Beatles les aident. Les Stones, ils ont du mal. Ils sont un très bon groupe de scène, mais ils ont un peu de mal en studio. Ils ne sont pas au niveau. Et du coup, qui est-ce qui arrive? Lennon et McCartney, qui leur font le cadeau de leur donner une chanson originale des Beatles qui va aider les Rolling Stones à devenir un groupe très connu.
Dans un instant, retour de Confidentiel consacré à
Juillet et à Cordiac. Voir Renault.fr.
RTL. Jean-Alphonse Richard.
Confidentiel.
En ce début des années 70, les Stones, escroqués par un manager américain, sont sur la paille. Le fisc britannique réclame des comptes à Mick Jagger, dont désormais la propre bouche, redessinée par un étudiant du Royal College of Arts, sert d'image au groupe. L'étudiant a touché 50 livres pour ses lèvres gloutonnes qui deviennent l'un des logos les plus célèbres de la planète, de quoi rendre Jagger immortel. Mick Jagger, qui s'affiche désormais au bras de Bianca Pérez Mora Macias, une Nicaraguayenne volcanique qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Rencontre à Paris où elle vient de se séparer du barbe bleue français Eddie Barclay. Jagger a toujours veillé à séparer le business et l'amour. Mais là, il se laisse happer par Bianca. Au mois de mai 71, mariage à Saint-Tropez, Roger Vadim et Nathalie Delon sont les témoins. 70 invités arrivés par avion privé, et parmi eux, deux enfants de 8 et 6 ans utilisés pour amener sous leur chemise un demi-kilo de cocaïne. Et rock'n'roll. Pour fuir le fisc anglais, Jagger et sa troupe se sont installés Villa Nelcote, à Villefranche-sur-Mer, un ancien QG de la Gestapo. Ici aussi, leur réputation les rattrape. Les gendarmes français perquisitionnent la villa. Keith Richards évitera de peu d'être inculpé de trafic d'héroïne et de prostitution organisée. Entre-temps, Bianca aura accouché d'une petite Jade et un double album de mélodies en sous-sol enregistré dans les caves de la villa Nelcott replacera Mick Jagger en pleine lumière. Avait un jour annoncé qu'il quitterait les Stones à l'âge de 33 ans. « C'est l'âge auquel on doit faire autre chose », disait-il. « Je ne supporterai pas de finir comme Elvis et de chanter à Las Vegas devant toutes ces vieilles dames avec leurs sacs à main. » Pourtant, Mick Jagger va vieillir sur scène avec son public, comme atteint par le mystérieux syndrome de la jeunesse éternelle. Toujours consumé par une frénésie amoureuse, le chanteur aux 4000 conquêtes, des femmes toujours plus belles les unes que les autres, on lui prêtera une liaison avec Carla Bruni. Comme si le fait de collectionner femmes et enfants, 8 au total, avait toujours agi comme un sérum de jouvence, une potion magique maintenant quasi intacte, ce corps de jeune homme et ce visage pourtant de plus en plus buriné. Après Bianca, il y aura la sculpturale mannequin texane Jerry Hall. Elle qui répétait vouloir épouser un milliardaire pour pouvoir prendre de longs et divins bains de champagne, attrapera Mick Jagger. Contre toute attente, le couple aura 4 enfants et restera une vingtaine d'années ensemble. Avec Jerry Hall, Jagger tourne doucement le dos à la frénésie. Gentleman farmer au château de Fourchette, dans la Loire, où il fait ses courses presque incognito au village voisin.
Confidentiel Mick Jagger sur RTL. Avenir, économisons-la.
Jean-Alphonse Richard.
Confidentiel Mick Jagger sur RTL.
Avec Mick Jagger, la vieillesse n'est qu'un mirage. Alors qu'il atteignait la trentaine, le chanteur couvrait déjà son visage de toutes sortes de crèmes. Depuis des années, Mick Jagger court ainsi contre la marche du temps. Un athlète norvégien en guise de coach sportif, du vélo, de la natation, de la musculation. Un régime drastique à base de haricots verts et de pâtes, cocktail de vitamines et d'huile de foie de morue, de l'hydratant anti-âge dont chaque boîte coûte 300 euros. Jagger ne boit presque plus une goutte d'alcool, le prix pour rester debout et ressurgir torse nu sur scène comme ses fans l'ont toujours vu. Jagger aura ainsi traversé 60 ans de chansons sans prendre une ride fatale. Sans Jagger et sa bouche géante, les Rolling Stones n'auraient jamais existé et encore moins résisté aux années. Surtout ne pas vieillir et surtout ne pas regarder en arrière. « Je ne veux pas farfouiller dans mon passé », a dit un jour le chanteur à un éditeur qui lui demandait de rédiger ses mémoires. Jagger, le survivant, avait répondu « Désolé, je ne me souviens de rien ».
Au 29 août, modalité sur intermarché.com.
Confidentiel.
Confidentiel. Jean-Alphonse Richard.
Voilà donc pour la vie de Mick Jagger qui a encore de beaux restes, ou en tout cas fait tout pour garder la forme depuis une heure avec nous dans ce confidentiel sur RTL. Philippe Manœuvre, vous publiez votre autobiographie rock. Mick Jagger, lui, a toujours été réticent à parler de lui finalement.
Alors, vous pensez bien qu'il y a eu des propositions d'éditeurs très nombreuses pour écrire cette fameuse bio de Mick Jagger où on saurait enfin ce qu'il pensait vraiment, parce que le personnage est fascinant, mais il ne s'est jamais beaucoup révélé dans ses interviews. Il est très malin, hein, il donne des interviews. Moi, j'ai interviewé 20 fois, mais il est brillant, brillantissime, drôle, lyrique. Enfin, il sait exactement ce qu'il... C'est un grand chef du rock, comme je dis souvent, mais il ne se révèle pas. Et donc, tous les éditeurs, depuis 20 ans, proposent des contrats mirifiques à Mick Jagger, qui refuse absolument, totalement, parce qu'il a essayé deux fois. Et comme disait John Lennon, si vous vous souvenez des années 60, c'est que vous ne les avez pas vécues. Mick Jagger, il les a vécues en première ligne. Hein, les Rolling Stones étaient là et pas qu'un peu. Eh bien, non, il ne s'en souvient pas. Et malheureusement, il a un peu des trous de mémoire. Et du coup, il ne veut pas du tout passer par la case « J'écris mes mémoires ». Il y a eu la biographie de Keith Richards, le guitariste des Rolling Stones. Mais je pense que celle de Mick Jagger, on l'attendra éternellement.
Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, Mick Jagger ?
Bah, il se prépare pour la tournée américaine des Rolling Stones qui va recommencer au mois d'avril, après qui va les emmener jusqu'au mois de juin. Ils commencent à New York, ils finissent à Chicago, mais ils vont faire tous les stades d'Amérique, ils vont faire des gros festivals, Festival de la Nouvelle-Orléans, etc. Et donc, et ensuite, il y aura un album des Rolling Stones en 2019, si tout va bien. Oui, il y aura un nouvel album, leur premier depuis très longtemps, mais les Rolling Stones existent, continuent à tourner, nous vivons dans un monde où il y a les Rolling Stones.
C'est un extraterrestre, hein, Mick Jagger. Quelle santé !
Écoutez, dans le rock, c'est celui qui a arrêté un peu toutes les bêtises au début des années 80, alors que pour beaucoup de gens, c'était au début des années 90. Et donc aujourd'hui, il a une énergie incroyable, une pêche fantastique. Là, quand il avait fait les concerts à Nanterre, à la U Arena, c'était le commentaire général de tous les spectateurs. Quelle énergie ! C'est comme ça qu'on veut vieillir, qu'on veut tous vieillir comme Mick Jagger.
Qu'est-ce qui restera dans l'histoire, les Stones ou Mick Jagger ?
C'est indissociable. pour l'instant, c'est indissociable. Chaque fois que Mick Jagger a fait un album solo, la réponse du public, c'était « Ah non, pas possible, on n'en veut pas. » Mais est-ce qu'ils ont fait ça pour maintenir les Stones en vie ? C'est le groupe de rock qui est resté le plus longtemps en activité. Les Beatles, finalement, ça a duré 7 ans, de 62 à 69. Les Rolling Stones, ça dure depuis 64 et on est en 2019 et ça continue toujours.
Et quelles chansons garder des Stones, finalement ?
J'irais « Sympathy for the Devil ». C'est une chanson qui vieillit bien, qui vieillit avec eux, puis qui raconte un peu toute l'ambivalence. Il y a un climat très bizarre, « Sympathie pour le démon », c'est un peu l'histoire des Rolling Stones.
Et l'histoire, évidemment, de Mick Jagger. Merci Philippe Manœuvre de nous avoir permis d'approcher au plus près Mick Jagger. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Philippe Duval à la réalisation. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, avec Meghan Markle, ex-princesse du Royaume d'Angleterre et de nouveau actrice. Un parcours surprenant. Tout de suite, on retrouve Laurent Ruquier pour le meilleur des grosses têtes. C'est à vous.